Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne vais du coup pas prêcher sur l'évangile d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais puisque ce nom de la maternité divine m'est très tendre, pour la raison que je viens d'invoquer, et puis parce que tout simplement la maternité divine c'est beau, je voudrais vous plutôt faire allusion dans cette petite homélie à ce qu'est la maternité divine et à ce qu'elle nous dévoile, à nous autres les enfants de Marie. Lorsque nous prenons la prière du Notre Père, vous savez que le Notre Père ne nous frappe plus, mais que les mystiques, eux, se laissent frapper par le Notre Père. Je crois que c'était Sainte Thérèse d'Avila qui n'arrivait pas à aller plus loin que les deux premières paroles, me semble-t-il, lorsque, pendant des années, elle a médité sur le Notre Père. Tellement elle était émerveillée par le fait que Dieu, qui est le tout autre, qui est le Très-Haut, que ce Dieu-là acceptait d'être à notre égard comme un père à l'égard de ses enfants. Que Dieu soit Père, c'est une merveille, parce que cela signifie qu'il n'est pas ce grand architecte qu'on nous vend depuis des siècles, ce premier moteur qui donne la chiquenaude initiale et qui ensuite se désintéresse des choses qu'il a lui-même créées. C'est un peu surprenant du reste, il faut être un peu barjot, je pense, pour être un Dieu comme ça. Si Dieu est un Père, c'est qu'il engendre, c'est qu'il prend soin, c'est qu'il aime, c'est qu'il éduque, comme essaye de le faire, bon an, mal an, un Père de la Terre. Il a fallu des millénaires, alors que ça nous paraît tout à fait naturel, il a fallu des millénaires pour que l'homme ose appeler Dieu son Père. Parce que depuis ce fameux événement de l'Éden, auquel je fais allusion à peu près dans un sermon sur deux, vous me pardonnerez, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me trouble quand même, que les deux créatures primitives à qui l'on avait tout donné puissent refuser leur Dieu et que leurs gestes puissent avoir des conséquences d'une telle portée, c'est quelque chose d'un peu surprenant tout de même. Alors voilà qu'il a fallu que, depuis ce premier mouvement où Dieu s'est rebellé contre son Père, il a fallu lentement que Dieu dévoile les secrets de son cœur dans sa révélation pour nous faire comprendre qu'il était un Père. Mais finalement, à y bien songer, que Dieu soit un Père pour ses créatures, ça paraît assez logique. Il a fait sortir de rien, il s'occupe des êtres, il fait un peu comme un Père. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus surprenant dans notre très belle religion et dans la vérité tout court, quelque chose de beaucoup plus surprenant que nous célébrions hier, le jour de la maternité divine, et qui pour le coup ne se conçoit pas du tout par l'intelligence humaine, c'est que non seulement Dieu est un Père pour sa créature, mais il a choisi qu'une créature soit comme sa mère. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus étonnant. La maternité divine, une pauvre petite créature, certes immaculée, mais pauvre petite créature, qui est la mère du Fils de Dieu. Et partant, Théotokos, la mère de Dieu. La tentation vaine serait de chercher exactement comment ça s'est produit. Et je vous ferai remarquer que si les théologiens actuels, pour une part, répugnent à tous les mystères de la Vierge Marie, la conception virginale par exemple, s'ils répugnent à cela, c'est parce qu'ils essayent de percer la technique selon laquelle tout ça s'est fait. Avouez que c'est quand même un peu glauque. Et que l'écriture pour sa part, qui est la parole de vérité, eh bien cette écriture est tout à fait succincte. Dans le récit de l'Annonciation, l'ange se contente de dire à Marie: l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et voilà, la vertu du Très-Haut descendra sur toi. Ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, c'est quelque chose de très succinct qui ne rend pas du tout compte de la manière dont ça s'est fait. Il faut être complètement fou, il faut être un Dieu amoureux de sa créature pour accepter de dépendre d'une femme humaine. C'est pourtant ce qu'a fait notre Dieu. Et pour comprendre cet amour fou de Dieu, nous n'avons pas d'autre solution que nous-mêmes d'être enflammés d'amour. À chaque fois que les mystères de notre religion nous font nous endormir, à chaque fois que nous tombent des mains des ouvrages dans lesquels on nous parle de la Trinité, de l'incarnation, de la rédemption ou de la maternité divine, là où le bât blesse, c'est que notre cœur est totalement refroidi. Il nous faut être sur la même longueur d'onde, si j'ose dire, que cet amour de Dieu pour bien comprendre toutes les initiatives qu'il a prises à notre égard, et notamment la maternité divine. Je fais un pas de plus. La maternité divine, c'est bouleversant. Une créature qui est la mère de son créateur. Mais il y a mieux encore, et la Vierge Marie, comme on le sait, ne gardant rien pour elle, la Vierge Marie a été, en quelque sorte, jusqu'à nous communiquer quelque chose de la maternité divine. Ça, c'est quelque chose qui devrait quand même nous bouleverser. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre maman, il n'y a pas d'autre origine, selon la chair, que Marie, bien sûr, mais que, d'une certaine manière, la Vierge Marie, parce que c'était la volonté de son Fils, la Vierge Marie nous fait entrer à l'égard de son fils dans quelque chose de sa maternité à l'égard de Dieu. Avouez que c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant. Vous me direz sans doute que je débloque, que je me suis un peu enflammé suite à quelques verres de trop pour fêter cet anniversaire sacerdotal. Je vous rassure, je suis parfaitement sobre, fatigué mais sobre, et je ne débloque pas du tout. Le chrétien est effectivement celui qui porte le Christ. Il est le Christophore, il est le Christophe, celui en qui le Christ descend. Je me revendique pour vous dire que nous avons quelque chose de la maternité divine à l'égard de Jésus, des paroles du Christ lui-même. Souvenez-vous de cet épisode où l'on vient, sa mère, ses cousins, ses apôtres, à la porte, alors qu'il était en train d'enseigner dans une pièce qui était archibondée, un peu comme ici. Voilà qu'on frappe à la porte et qu'on veut approcher du Seigneur Jésus. On lui dit « Ta mère, tes frères sont là et ils cherchent à te parler. Alors va les voir parce que la foule fait obstacle. » Que répond le Seigneur sur un ton intransigeant ? Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est ma mère et est mes frères. Ce qui veut dire que Jésus reconnaît qu'on peut être à l'égard de lui comme une mère. Nous pouvons donc entrer, c'est le Jésus qui le dit lui-même, dans une relation de maternité. Dans quelle mesure? Eh bien, nous enfantons Jésus. Nous enfantons Jésus lorsque nous recevons les sacrements. Mais c'est quelque chose que nous ne considérons pas assez, je pense, sinon nous fréquenterions davantage certains sacrements. Ce n'est pas, c'est quelque chose de merveilleux que de considérer que dans chaque sacrement, nous enfantons, par la grâce de Dieu bien sûr et pas par nos propres mérites, nous enfantons Jésus en nous. Nous portons Jésus en nous. Vous me direz que c'est très clair pour l'Eucharistie, parce que nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus dans l'hostie. Là, c'est quand même assez patent qu'effectivement, nous portons Jésus en nous comme une maman porte son enfant. Ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, les effets sont excellents. Dans les autres sacrements, il se passe exactement la même chose. Nous enfantons Jésus sous tel ou tel rapport. Jésus, de telle ou telle manière. Lorsque j'ai été configuré, en dépit de toutes mes faiblesses, à Jésus, dans le sacrement de l'ordre, j'ai été configuré, j'ai porté en moi et je porte en moi, je sais que je fais écran par certains de mes défauts à cela, mais le trésor, vous savez qu'il est au fond de moi, sinon vous ne viendriez pas à la messe ici, je pense. Je porte Jésus prêtre, j'enfante Jésus prêtre. Ceux d'entre vous qui sont mariés, enfantent, portent Jésus époux de l'Église, avec son amour infini, sa capacité d'endurer toute chose, de se donner totalement. Évidemment, nous faisons écran à cela, mais pourtant, c'est bien vrai. Lorsque nous recevons le sacrement de confirmation, nous sommes configurés à Jésus prophète. Nous sommes capables d'endurer tous les tourments pour affirmer la vérité. Nous sommes capables de présenter la vérité avec pertinence, en même temps qu'avec douceur. Voyez ce qui se fait par les sacrements. Voyez donc pourquoi j'ai choisi le sacerdoce. Parce que cela est merveilleux que de pouvoir féconder une âme et de pouvoir lui faire porter le Christ d'une certaine manière, selon telle ou telle modalité en fonction du sacrement. Voyez donc que nous avons tout intérêt toujours à méditer ces mystères grandioses, et notamment celui de la maternité divine, en nous disant que nous y avons notre part. Il ne s'agit pas seulement de contempler Marie et les merveilles que Dieu a fait en elle, ce qui est déjà merveilleux, mais de se dire qu'il pourrait bien advenir la même chose si nous nous prêtions au jeu, si nous supplions Dieu de bien vouloir nous faire entrer dans cette maternité à son égard. Voyez, je crois, et là c'est la seule allusion que je ferai en conclusion à cet évangile d'aujourd'hui, je crois que lorsque les foules, je cite, furent prises de crainte après que Jésus a fait son miracle, elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Un tel pouvoir aux hommes, c'est merveilleux. Nous avons un pouvoir sur notre Dieu. Nous pouvons enfanter Jésus-Christ ou refuser de le porter et de l'enfanter. Alors, à vous de choisir, mes bien chers amis, que voulez-vous ? Voulez-vous ou pas accueillir Jésus en vous, l'enfanter, ou voulez-vous avorter ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.